Fidèles auditeurs, c'est parti pour la deuxième tranche de l'émission Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Merci à vous tous qui nous écoutez sur www.radiookapi.net. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la dégradation des mangroves. Quels sont les impacts de la dégradation des mangroves sur le vécu quotidien des populations? Apollinaire Sokangimbi, activiste de l'initiative pour le développement local, sera notre invité, ainsi que Monsieur Arthur Kalonji, directeur du parc marin de mangroves qui se trouve à Mwanda dans la province du Congo central. Le sujet vous intéresse? Eh bien, composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Et puis, vous pouvez aussi laisser un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Alain Goy, à la mise en onde. Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission avec l'assistance de Marc Chata. Au micro, Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie de l'émission Okapi Service.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiookapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiookapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiookapi.net.
Bien, à Mwanda, dans la province du Congo central, on enregistre une perte des ressources vivantes et la destruction des habitats, des ressources halieutiques le long des 45 km du littoral de l'océan Atlantique. Cela à cause des pressions provenant des activités humaines de la ville de Mwanda. C'est ce que révèlent les enquêtes de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. C'est là certainement des répercussions sur les opportunités des survies et accentue la pauvreté. Alors, quels sont les impacts de la dégradation des mangroves sur le vécu quotidien des populations de Mwanda et environ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons en ligne Monsieur Arthur Kalonji, directeur du parc marin des mangroves. Monsieur Arthur, bonjour.
Oui, bonjour. Merci.
Bienvenue dans cette émission. Alors, nous parlons aujourd'hui des impacts de la dégradation des mangroves. La première question est de savoir c'est quoi les mangroves?
Les mangroves sont une zone humide qui se retrouve assez souvent entre la mer et les fleuves et caractéristique des palétuviers et des différentes sortes, parce que dans les palétuviers il y en a aussi il y a plus ou moins 4 ou 5 espèces, et donc c'est ce qui fait la caractéristique des mangroves.
Voilà, vous dites que c'est une zone humide entre l'océan et le fleuve. Et qu'est-ce qu'on retrouve là-bas d'autre?
La mangrove, c'est une zone qui abrite des espèces. Ça dépend, comme nous parlons des mangroves de la République démocratique du Congo, nous avons des espèces telles que les lamantins, nous avons des espèces telles que des petits singes, nous avons des oiseaux migrateurs, nous avons des perroquets gris du Gabon, nous avons des aigles, palmistes, ainsi que des antilopes, pour terminer par les hippopotames.
Voilà, donc c'est les mangroves hébergent beaucoup d'espèces. Hein.
Oui, la mangrove héberge beaucoup d'espèces, hein. Vraiment beaucoup d'espèces de mammifères que aquatiques aussi.
Ouais. Est-ce qu'on y trouve aussi des poissons? On peut faire la pêche là-bas?
Oui, je ne sais pas, mais les mangroves sont aussi une zone de reproduction de poissons. C'est comme la maternité des poissons. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Vraiment, la mangrove, elle est riche en ressources halieutiques.
Voilà. Et cette zone humide, vous avez dit, c'est une eau, stagnante. Les eaux ne coulent pas.
Non, non. L'eau coule parce que quand vous prenez les mangroves au niveau de la RDC, donc c'est sur toute la colonne du fleuve Congo, que le fleuve Congo, quand il passe, et vers sa sortie, vers l'océan, c'est là où commence la mangrove. Donc elle est vraiment située, elle a une localisation géographique très bien située.
Ouais. Et aujourd'hui, quel état des lieux vous faites du parc marin de mangrove?
Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que le parc marin de mangrove se porte bien, pour ne pas dire très bien, parce que il y a quelque temps, le parc a connu vraiment un problème très sérieux au niveau du leadership, même dans son management, donc dans sa gestion, que nous sommes en train de redresser. Vous savez, la conservation chez nous, il faut avoir vraiment des financements. Hein? Et le parc marin de mangrove n'a pas de financement durable. C'est-à-dire que nous n'avons pas de financement de partenaires vraiment engagés pour la protection non seulement de la mangrove, mais aussi la prise en compte des communautés. Parce qu'aujourd'hui, la conservation, elle n'est un succès que si on implique les communautés. Parce que les communautés ont un grand rôle à jouer dans le maintien même de ces écosystèmes, même dans la sécurisation. Donc cela veut dire qu'une fois que vous avez des moyens, que vous injectez au niveau de ces communautés, soyez-en rassurés que vous aurez aussi des bons résultats au niveau de la protection. Parce que vous allez sensibiliser les communautés, vous allez leur donner des alternatives. Et ces communautés-là, en échange, ces communautés vont réduire la pression sur la mangrove. Et donc voilà un peu ce qui manque aujourd'hui, c'est d'arriver des partenaires, donc d'arriver à obtenir de financement durable auprès des partenaires qui peuvent s'engager sur une longue durée et peut-être à court terme aussi, moyen terme, pour que nous puissions avoir des résultats. Donc ça, c'est vraiment une grande difficulté que nous sommes en train de voir comment résoudre avec les autorités de Kinshasa. Le DG est en train de mettre beaucoup d'efforts là-dessus pour que nous puissions vraiment arriver à trouver des financements durables à travers des opportunités telles que le crédit carbone. Parce que nous avons aussi de la ressource, c'est que la mangrove elle-même, elle joue un rôle très important au niveau de la séquestration du carbone. Et donc ça, déjà, nous pouvons mettre en avant. Et quand nous avons des partenaires qui peuvent venir déjà investir dans le crédit carbone, et donc tous ces moyens-là peuvent nous permettre d'investir dans les communautés pour que ces communautés puissent réduire la pression sur la forêt de mangrove.
On va accueillir Martin de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour à la radio de la paix. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Martin?
Notre préoccupation, c'est la dégradation contenue et apparemment entretenue de cette ressource écologique très importante. Nous, en tant que jeunes qui militent pour la justice climatique, nous sommes opposés à toute exploitation qui porte atteinte à cette potentialité et qui confirme notre pays, la République démocratique du Congo, comme étant un pays solution. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous sommes vraiment très, très inquiets, parce que n'oubliez pas que Moanda, c'est aussi la zone où on est en train d'exploiter le brut, le pétrole brut, avec l'émission du COD et l'émission aussi de beaucoup de méthane, et qui affecte non seulement la population locale, mais aussi qui perturbe la biodiversité. Il y a des espèces aquatiques qui ne vivent que dans les mangroves. Et donc, avec cette dégradation, on menace la survie de ces espèces. Et donc, ça porte vraiment atteinte, ça pose vraiment un réel problème de ce point de vue-là. Et donc, nous sommes vraiment très inquiets et nous demandons à ce que l'atteinte ou la brutalisation du mangrove puisse s'arrêter, parce que notre vie, ce n'est pas seulement Mwanda, c'est la vie de la population congolaise entière en dépend. Et donc, voilà ce que je pouvais dire.
Merci Martin de Kinshasa. On va accueillir Bertin, qui est aussi à Kin. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Bertin.
Allô?
Oui, bonjour Bertin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux impacts de la dégradation des mangroves sur...
Merci beaucoup. Je viens d'entrer au milieu de l'émission. La dégradation de mangroves a des impacts qui touchent les trois dimensions de développement durable. Je parle de l'économie, les sociales et l'environnement. Sur le plan environnemental, dégrader les mangroves, ça affecte les habitats d'une biodiversité très spécifique que ne se retrouve ni par ailleurs que dans le mangrove. C'est là où nous voyons les lamantins, les tourtis. Ce sont des ressources environnementales pour la fierté des Congolais. Donc le protéger, c'est une manière de protéger un équilibre environnemental chez nous. Donc les détruire, ça détruit ces espèces-là. Mais ce sont des espèces qui ont aussi un aspect touristique, que lorsqu'on les protège et que les mangroves ne sont pas dégradées, ça peut générer de revenus financiers pour le bien de la population locale. Et en dehors de ces espèces et des habitats qui sont détruits, la destruction de mangroves participe aussi aux émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables des changements climatiques actuellement. Parce que dans les mangroves, il y a la pression de la population qui coupe le bois pour la carbonisation. Il paraîtrait que les bois du mangrove sont beaucoup convoités par la population locale. Et cette exploitation étant irrationnelle, donc ça veut dire ne respectant pas le rythme de régénération de cette mangrove, ça cause beaucoup de problèmes environnementaux et l'écosystème ne fait que se dégrader. Ça, c'est sur le plan environnemental. Sur le plan social et économique, c'est tout ce qu'il y a autour. Je viens de parler de l'importance de cette biodiversité aussi riche et exceptionnelle qui se retrouve dans ces sites, qui, une fois protégés, peut engendrer des activités écotouristiques qui puissent créer de l'emploi vis-à-vis de la population tout autour de ce mangrove et qui puissent aussi participer d'une certaine manière à l'équilibre économique de notre pays. Donc détruire le mangrove affecte le bien-être des populations sur le plan social, économique et environnemental. Bien sûr, il y a les aspects climatiques qui sont tout autour. J'ai entendu mon frère Martin qui venait d'intervenir, qui a évoqué ça. Donc en fait, oui, simplement, les mangroves jouent un très grand rôle dans la protection de la biodiversité et dans la production de moyens de subsistance des communautés. Je viens de le parler tantôt ici sur le plan socio-économique. Il y a des populations pauvres qui vivent de ressources de pêche dans le mangrove. Et donc si on les détruit pour des intérêts X ou Y, ces populations, ce pauvre-là, le pêcheur et les autres qui vivent du jour au lendemain de ce mangrove, se retrouvent sans emploi, se retrouvent sans nourriture, et ça affecte beaucoup d'aspects de leur vie. Voilà ce que je pouvais ajouter.
Bien, merci Bertin de Kinshasa. Apollinaire Soka Ngimbi, bonjour. Monsieur Apollinaire, bonjour.
Bonjour, je vous
Oui, nous allons bien. Vous êtes activiste de l'initiative pour le développement local, IDEL. Nous parlons des impacts de la dégradation des mangroves sur le vécu de la population de Mwanda. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui, j'ai suivi Martin des forums citoyens, j'ai suivi Bertin qui parle de la des trois aspects du développement durable, l'économique, social et l'environnement. Bon, il faut avouer que l'ami de l'ICCN nous a dit que l'état du lieu était coussi-coussa, oui, que les mangroves se portaient bien, il n'y avait pas les problèmes de management. Mais je dois avouer ceci, que dans les années qui suivent avec l'offre lancée avec les blocs pétroliers, je dois dire que les mangroves va être encore très menacées parce que dans la zone estuaire du fleuve Congo, et nous avons une bonne partie des mangroves qui sont là, je crois que c'est là où se retrouveraient les blocs Matamba-Makanzi, une partie en terre et une partie dans l'eau. Donc c'est déjà une menace pour le mangrove. Mais vous avez aussi l'arrivée du port en eau profonde, qui constitue aussi une menace terrible, parce qu'avec le port, il y aura une très grande transaction des activités économiques et aussi des mouvements au niveau de l'eau. Le mangrove est aussi menacé. Mais aussi, il faut parler aussi de l'évolution démographique au niveau de Mwanda. Au niveau de Mwanda et aussi de la pauvreté dans des villages les longs et dans les villages entre Boma et Mwanda. Parce qu'il y a une montée d'activité des makala, donc de bois de chauve, tout ça, et le palétuvier constitue un très bon marché qui produit les makala que les femmes préfèrent dans notre zone et qui sont même vendus à Kinshasa. Vous allez constater des remorques et des véhicules qui quittent la route Boma-Mwanda pour aller vendre des makala à Kinshasa, une transaction commerciale est très très nocif pour le mangrove. Donc voilà un peu, j'adhère à tout ce que les amis ont dit, mais il faut une politique relative à la gestion de l'environnement. Parce que de plus en plus, nous accompagnons le pêcheur, il y a un conflit aigu entre le pêcheur et l'ICCN, et il y a de temps en temps des conflits parce que le pêcheur passe avec les lamantins, et puis les zones. Et comme l'a dit notre ami, la maternité des poissons, c'est dans le mangrove. Donc, il faut trouver réellement des moyens pour l'ICCN, afin que l'ICCN joue le rôle qu'il faut pour accompagner les communautés qui sont dans la zone, dans le parc marin des mangroves, pour réduire un peu cette pression et pour trouver un compromis entre le peuple et la nature. Voilà tout ce que je peux vous dire dans un premier temps. Nous sommes disposés. Merci.
Bien. Alors, dites-nous comment... On a suivi le responsable et directeur du parc qui déplore, il n'a pas assez de moyens pour les moyens de sa politique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, M. Apollinaire, pour réduire la pression des populations locales sur ce parc?
Au fait, déjà l'ICCN avait donné une solution. Il faut proposer des alternatives. Mais ce qui est un peu marrant, c'est que nous avons constaté que l'ICCN au niveau de Mwanda n'est pas aussi très bien connu que l'ICCN quand je suis dans le parc de Virunga. Avec tous les moyens qu'on a donné au niveau du parc de Virunga, il y a l'Alliance verte au niveau du parc de Virunga, et pour protéger le parc de Virunga, on a financé Matebe avec l'hydroélectricité, on a donné les moyens au niveau des communautés. Moi, je crois que c'est cette politique-là qu'il faut faire. Est-ce qu'au niveau de l'ICN, il n'y a pas moyen de vulgariser la question? Parce que c'est quand même très important. Peut-être la difficulté, c'est quoi? C'est que les enjeux économiques du pays, parfois, comme l'a dit Martin, est en contradiction avec ce que nous disons comme pays solution. Donc, je suis de plus en plus convaincu, comme l'a dit l'ami de l'ICCN, il faut un financement durable qui va prendre en compte les communautés afin de leur proposer des alternatives. C'est vraiment nécessaire à notre niveau. Je pense que les énergies solaires pouvant permettre aux communautés de ne pas trop agresser les mangroves qui constituent un bois de chauve, qui constituent les makala les plus demandés dans la population, je crois que c'est aussi une alternative. L'hydroélectricité qui ne perturbe pas trop le climat, c'est aussi une alternative. Donc, nous devons réfléchir pour donner l'alternative aux communautés et mettre le moyen au niveau des mangroves, au niveau des parcs marins des mangroves, au niveau de Mwanda. Voilà un peu tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Mais j'adhère pratiquement au financement durable et il faut voir comment capter les crédits carbone que nous retrouvons déjà dans les Bandundu, que nous retrouvons par-ci par-là en RDC, afin que les mangroves soient préservées.
Bien, Monsieur Arthur Kalongi, directeur du parc marin des mangroves, votre réaction?
En tout cas, je remercie beaucoup tous les interlocuteurs. Comme je vous ai dit, le problème de la conservation, c'est un problème qui doit être pris en compte par plusieurs intervenants. Et donc, l'ICFL n'est qu'une partie de la solution, et que l'autre partie doit aussi se faire à un autre niveau, beaucoup plus au-dessus, c'est-à-dire au niveau de la politique même du pays.
Allô, Monsieur Arthur. Monsieur Arthur, voilà, il n'est plus en ligne. Monsieur Apollinaire, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'on doit tout faire pour développer des activités alternatives et réduire ainsi la pression des populations environnantes sur le parc, parce que les gens préfèrent fabriquer les macales avec les palétuviers. Alors, si aujourd'hui il y a un financement, quels sont les types d'activités qu'on peut proposer à ces populations afin de ne plus aller chercher le macala au niveau du parc?
Bon, au fait, au niveau de la zone de parc, nous avons l'activité principale, ceux qui sont le long du fleuve, c'est la pêche. Ils font aussi l'agriculture. Mais quand vous vous éloignez un peu du fleuve, il y a aussi, comme nous avons la route Boma-Mwanda, il faut avouer que la route amène aussi les activités commerciales dans la zone. Ça, c'est une première analyse à faire sur base des secteurs déclencheurs du développement économique local, en dehors de mangroves. Et les mangroves aussi, et je dois vous dire, mon ami, que les mangroves, les makalas qui sont fabriqués, ce qui est étonnant, si je vous le dis, c'est plus consommé au niveau de la ville de Kinshasa. Nous avons mené des enquêtes pour comprendre un peu pourquoi les makalas sont exploités d'une manière agressive au niveau de la zone. On a constaté que sur 10 commerçants qui viennent acheter les makalas à Kaitinyonga, à Matamba Makanzi, à Luibi, vous allez constater que sur 10, il y a au moins 7 ou 8 Kinois et qui viennent prendre. Alors, le véhicule, vous allez constater aujourd'hui le véhicule qui font, parce qu'on a quand même arrangé la route, félicitations, le véhicule qui quitte Mwanda pour aller à Kinshasa, les remorques se font remplir de makala et partent directement à Kinshasa. Ni Boma, ni Matadi, ni Mbanzangungu, ni Kisantu. Et je crois que la deuxième solution viendra aussi du niveau d'accès de l'électricité au niveau de la ville de Kinshasa. Kinshasa, c'est une poudrière pour les zones environnantes de Kinshasa, spécialement pour la grande province ou les grands Bandundu et la province du Congo central. Avec plus de 14 millions d'habitants, 20 millions d'ici là, et si nous n'arrangeons pas la question de l'électricité dans la ville de Kinshasa, les zones environnantes vont souffrir d'une agression environnementale grave. Et comme ça commence à se faire au niveau des mangroves. Donc c'est aussi une solution qui dépend au niveau local, mais aussi une solution au niveau des grandes villes qui ont besoin des makalas pour leur cuisine. Donc la politique sur la cuisson propre doit être réfléchie et facilitée. Aussi, l'accès à l'électricité dans des grandes villes comme la ville de Kinshasa devient de plus en plus les punes dans les souliers ou un petit cahier dans les souliers des zones environnantes comme la province du Congo central et les mangroves aussi. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Donc l'alternative partira des deux côtés, au niveau local et au niveau national, afin de donner de l'électricité pour des cuissons au niveau des grandes villes comme Kinshasa.
Et en plus de l'électricité, vous avez parlé des énergies propres qu'on peut développer.
Oui, les énergies propres qu'on peut développer au niveau local. Je prends un exemple. Est-ce qu'il est possible d'améliorer les revenus des communautés, des revenus de ménages agricoles, en leur permettant de vendre un produit semi-fini ou un produit fini dans des villes? Donc, des moulins qui seront alimentés par des solaires, qui est une énergie propre, serait intéressant. Et à ce moment-là, vous poussez les économies locales à émerger sans pourtant détruire l'environnement qui est proche et faire de cet environnement-là un produit économique, un produit commercial à vendre dans le cadre du tourisme et même des hôtels. Nous avons vu, quand vous allez dans certains pays africains, vous allez à Sali, vous allez à Keta, à Sali au Sénégal, à 50 km de Dakar, vous allez à Keta, à 75 km d'Accra, ils sont dans les deltas, il y a des palétuviers là-bas, mais ce sont des zones de touristes qui amènent beaucoup d'argent au pays et même aux entités territoriales décentralisées. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là.
Oui, mais le directeur du parc déplorait le manque de financement. Mais pourquoi ne pas, par exemple, développer des activités écotouristiques autour du parc? Et ça peut être une source, une bonne source d'entrée.
En fait, il faut avouer qu'il y a une question de leadership et d'imagination managériale. Et dans cette zone, nous avons à déplorer l'absence managériale et d'imagination du ministère de l'Environnement. Et ça, c'est une question qui se pose au niveau de la hiérarchie de l'État à ce niveau-là. Et ça, c'est de un. De deux, vous allez constater qu'avec la montée des océans, ça, il faut le dire, avec la montée des océans, il y a une salification des eaux au niveau de l'estuaire du fleuve qui va jusque qui est en train de remonter le fleuve. C'est pour dire qu'il n'y a pas une attention. Toutes ces questions, ce sont des questions qui relèvent aussi de l'attention de la communauté internationale dans le cadre du changement climatique. Je constate que notre gouvernement ne parle pas trop de mangroves. Ni l'État, ni l'ICCN n'en parlent pas trop. Et notre gouvernement aussi ne fait pas aussi la publicité de cette côtière. Et je crois que la publicité, faire connaître... La question des crédits carbone, ce sont des questions à capitaliser. Ça, c'est de un. Au niveau local, est-ce qu'il est possible d'aller vers un partenariat public-privé pour développer une société de tourisme dans la zone? Moi, je crois que c'est possible, mais ça dépend aussi de l'imagination et du management de l'autorité publique, afin de définir les grandes lignes, les lignes susceptibles de donner les moyens et de créer les conditions nécessaires pour mobiliser les capitaux même au niveau local et même au niveau de la région. C'est ce qui nous manque jusqu'à présent et je crois qu'avec la création de l'emploi, c'est aussi un secteur qui peut créer l'emploi, c'est la première priorité des chefs de l'État aujourd'hui.
Bien, nous parlons aujourd'hui des impacts de la dégradation des mangroves sur le vécu quotidien des populations à Moanda dans le Congo central. Des questions et préoccupations, composez le 099 706 99 41.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bien, nous parlons des impacts de la dégradation des mangroves, du parc marin et des mangroves aujourd'hui, qui fait face à beaucoup de difficultés, des financements, etc. Et les populations environnantes continuent à exercer des fortes pressions pour le makala, fabriquer le makala avec les palétuviers qu'on retrouve là-bas. Et avec Monsieur Apollinaire, voilà, on est en train d'en discuter, trouver des solutions. On peut développer l'écotourisme, etc. Et pour permettre à ce parc d'avoir des moyens. Et voilà. Et Monsieur Apollinaire, Martin, qui nous a appelé tout à l'heure à parler des trois dimensions économiques, sociales et environnementales. Et il déplore aussi, disons, l'exploitation du pétrole, des pétroles, le port en eau profonde. Voilà, tout ça, ça aura des impacts sur le parc. Et puis, c'est aussi la maternité des poissons aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc, la dégradation risque de continuer si il n'y a pas de mesures efficaces pour protéger ce site. Apollinaire.
Oui, merci beaucoup. À l'époque, je crois qu'il y a 3 ans, nous avons demandé qu'on puisse publier l'étude d'impact environnemental du port en eau profonde. Et l'étude qui a été mise à la disposition de la communauté nationale et internationale, c'était une étude de faisabilité, une étude financière qui a été mise, qui étudiait la rentabilité. On avait tout juste quelques paragraphes qui faisaient allusion à l'environnement. Donc ça, c'est un élément important. Et aujourd'hui, on est en train de construire le port. Les travaux sont en train d'avancer. Ben, jusque là, curieusement, jamais été saisi de mesures d'atténuation, sinon de mesures pour contourner les effets sur le parc marin des mangroves. Et déjà, la zone de Tompo, qui est en face, malheureusement, nous sommes à la radio, la zone de Tompo qui est en face du port, c'est une zone qui va être sérieusement menacée parce que, comme je l'ai dit, avec le mouvement des eaux, avec l'arrivée des grands bateaux, parce que c'est un port qui va avoir 14 000 pieds, donc c'est un grand port, avec l'arrivée des grands bateaux, il faut avouer que le parc dans cette zone sera en danger. Ça, c'est clair. Et je le dis avec l'appel d'offres pétrolier et gazier, nous avons quelques blocs, 3 blocs, les blocs de Yema, les blocs d'Enganzi et les blocs de Matamba Makanzi. Mmh. Les blocs de Matamba Makanzi se retrouvent dans l'eau et sur terre. C'est pour dire qu'on aura les offshore et les onshore, donc il y a quand même un problème qui va avoir lieu. Tout ça, il c'était nécessaire que le gouvernement nous dise ce qu'il a prévu pour atténuer tous ces risques environnementaux. Mmh. Je voudrais vous donner quand même un élément chiffré. On me dit ceci avec Arte, qu'un hectare de mangrove est capable de déstocker 3754 tonnes de carbone. Et ce qui est équivalent aux émissions de 2650 voitures durant une année. Et donc le mangrove, comme l'a dit l'ami de ICCN, mm-hmm. c'est un puits de carbone. C'est très important. Et les mangroves nous aident aussi à atténuer la colère des cyclones, des grandes tempêtes, mm-hmm. les mangroves. Et vous allez constater que malgré les bousculades de la zone marine de Benguela, notre zone ne subit pas des cyclones, notre zone ne subit pas des grands mouvements de vent. C'est aussi les mangroves qui contribuent à ça. Donc nous avons tout intérêt de préserver nos mangroves. Et quand vous êtes dans le fleuve, entre Malela et l'océan, vous allez constater que les rives du fleuve ne sont pas bousculées. Donc la géographie du fleuve n'est pas bousculée. Pourquoi ? Parce que nous avons les mangroves qui protègent les littorales du fleuve. Quand vous remontez de Malela jusqu'à Boma et vous continuez, vous allez constater que la morphologie du fleuve change à tout moment parce que cette zone-là n'a pas de mangroves. Donc c'est pour dire que nous avons tout intérêt d'avoir une politique environnementale spécifique pour les mangroves parce que nous puissions protéger cette richesse environnementale que nous avons.
Bien, nous avons en ligne de nouveau Monsieur Arthur Kalongi, directeur du parc marin des mangroves. Monsieur Arthur, vous êtes là?
Oui, je suis là, je vous écoute.
Bien.
Oui, je suis là, Radio Capital.
D'accord. Alors, vous étiez en train de parler de ce qui doit être fait pour protéger ce parc. Voilà, on a suivi que ce parc joue un rôle très important, même dans l'atténuation des cyclones, etc. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour le préserver, réduire surtout les pressions que les populations environnantes exercent sur cet écosystème?
Très techniquement, c'est déjà de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut se lancer sur le long terme et commencer déjà par rédiger un plan d'aménagement et de gestion du parc, parce que c'est avec ces documents que nous pouvons effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur, l'intervenant, dont j'ignore le nom, vous allez m'excuser.
Monsieur Apollinaire.
Donc, nous devons avoir ces documents-là, le plan d'aménagement et de gestion, qui sera en fait comme le business plan avec lequel nous pouvons maintenant aller frapper pour aller montrer comment nous pouvons gérer les parcs, comment nous pouvons gérer les mangroves et à quelle hauteur. Parce que c'est ça aussi le problème que nous avons. Parce que c'est beau de parler, de dire tout ce que nous sommes en train de raconter, mais quand ce n'est pas coulé dans un document, que quand un partenaire n'essaie pas avoir toutes les informations, je pense que nous sommes en train de parler dans le vide. Donc, pour moi, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, nous devons, nous, en tant que parc marin de mangroves, en tant que ICSN, nous doter de ces documents stratégiques qui permettra à ce que nous pouvons maintenant aller frapper ça et là, et que maintenant, différents partenaires, selon leurs interventions, qui d'autre viendra pour les communautés, qui d'autre viendra pour améliorer la pêche, qui d'autre viendra pour le reboisement, qui d'autre viendra pour ceci ou cela. Et donc, tout ça doit être coulé dans un document. Et donc, ça, c'est une priorité pour nous. Vraiment, nous battons pour que nous puissions avoir ces documents stratégiques qui nous permettra vraiment d'avoir une vision claire par rapport à tout ce que nous allons envisager sur le long terme. Sur l'avenir de la mangrove congolaise.
Bien, on va accueillir Basile depuis Kambove. Bonjour Basile. Dommage, il est parti, il n'est plus là. Alors, ce document stratégique, qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir? Vous êtes déjà en train de travailler avec vos équipes sur la politique en question.
C'est un document très important parce que ce n'est pas seulement nous qui allons l'élaborer. Il doit faire intervenir aussi les communautés, mais aussi tout ce qu'il y a comme force vive, tout ce qu'il y a comme communauté. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment un travail pour récolter toutes les informations, pour récolter des renseignements sur son historique, donc tout ce qui s'est passé par avant. Donc, c'est vraiment un grand travail. Et nous, à ce niveau, ici, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger des termes de référence pour que nous puissions constituer déjà les équipes qui vont se mettre à travailler sur ces documents très importants, qui va assurer la vision à long terme de la mangrove congolaise.
Bien, on va accueillir Godet de Kikwit. Bonjour.
Monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
On vous vraiment, écoute.
Cette zone la mangrove, vraiment, c'est très nécessaire. L'histoire des mangroves, vraiment, dans notre cartographie du Congo, vraiment, on nous a pris même sur le banc de l'école vers les années 87 et 88, lorsque je suis encore petit. Vraiment, les mangroves, c'est un endroit qu'on ne peut pas négliger donc cet environnement-là des mangroves. Vraiment, j'ai deux préoccupations à poser à l'invité. Puisque les mangroves, c'est une zone touristique aussi. Comment on va négliger une zone touristique qui nous profite des étrangers qui ne peuvent pas négliger le port là qui vient encore encombrer donc les mangroves. Ça diminue la chance du mot.
Désolé Godet, on vous entend plus très bien, mais vous avez dit qu'on peut développer le tourisme autour de ce parc de mangroves. Monsieur Arthur Kalonji, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je lui dis déjà que c'est pour ça que je parle de ce plan d'aménagement et de gestion. Parce que le tourisme, c'est une des activités qui doit être développée dans ce plan d'aménagement. Vous savez, quand on gère une aire protégée, pour être très bien fixé par rapport aux objectifs, il faut avoir ces documents-là. Parce que ces documents, c'est comme, qui dirait, la boussole. Et en même temps, un document qui va vous permettre de capter de financement. Vous savez, je vais vous dire très clairement, qu'il y a vraiment des potentialités touristiques énormes pour les parcs marins de mangrove. Il y a des choses qui sont uniques à cet écosystème-là, notamment les îles aux coquillages. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Et même les mangroves elles-mêmes. Quand vous regardez les mangroves ailleurs, comme au Sénégal et partout ailleurs, vous n'allez pas voir les mangroves que nous avons ici en République démocratique du Congo, des mangroves de plus de 40 mètres de hauteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et donc, il y a lieu, il y a possibilité de développer le tourisme au niveau du parc marin de mangroves. Et donc, les documents stratégiques que je suis en train de parler, c'est ces documents-là qui permettra de comment dirais-je, qui permettra même de d'identifier le besoin en potentiel touristique et comment il faut le faire et le coût. Et là, en ce moment-là, nous pouvons maintenant mettre ces documents à la disposition des opérateurs économiques. Et s'il y a un opérateur économique qui veut investir dans le domaine du tourisme, il est le bienvenu parce que déjà, dans les documents, on va déjà éclater comment il faut faire pour faire un tourisme attrayant. Parce que, juste pour vous dire, il y a un temps, c'était le parc national de Virunga, tous les parcs de l'Est. Aujourd'hui, à l'Est, il y a la guerre. Donc, nous, à l'Ouest, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons maintenant valoriser des sites touristiques de l'Ouest pour que le tourisme puisse vraiment tourner, parce que le tourisme, comme vous le savez, c'est une grosse machine financière. Et donc, voilà, le tourisme fera partie aussi de la solution. Quand il y a le tourisme, on implique les communautés. Les communautés vont devoir générer un peu d'argent et ils comprendront le pourquoi, le bien fondé de protéger les mangroves, parce que c'est eux-mêmes qui seront à l'action, c'est eux-mêmes qui vont vendre des petits produits, c'est eux-mêmes qui vont... Donc voilà un peu pourquoi je dis que ce document, c'est un document très important.
Mmh. Mais nous savons aussi que le port en eau profonde des Bananas aura un impact sur les mangroves, alors que ce document... va proposer aussi, j'imagine, des mesures d'atténuation.
Justement, nous allons aussi nous y pencher. Pour nous, déjà, ça sera une grande contribution de parce que quand on met toutes ces valeurs écosystémiques de la mangrove et quand on compare de l'autre côté au port en eau profonde, et donc c'est là où même nous allons aider l'État dans la prise de décision. Et c'est là où nous allons maintenant orienter tout ce qu'il y aura comme mesure d'atténuation, tout ce qu'il y aura comme mesure de suivi, comment on va, à quel niveau nous allons collaborer et tout ça. Donc voilà pourquoi il nous faut vraiment ces documents pour une seconde fois, j'insiste.
Alors quand est-ce que ce plan d'aménagement et de gestion sera élaboré?
Le plan d'aménagement, déjà, nous nous sommes adressés à Kinshasa, dont le directeur général était très favorable et très rapidement, aussitôt qu'il a reçu le mail, il nous a orientés vers le département technique et scientifique. Et donc, nous sommes déjà en train d'échanger les premiers mails déjà pour voir comment on va constituer les équipes, comment les parties prenantes, c'est qui viendra. Et les organisations locales, la société civile et tout ça. Et donc, c'est un travail pour rédiger ces documents. Je pense que ça peut nous prendre, c'est pas moins d'une année, hein. C'est pas moins d'une année parce qu'il y a beaucoup d'informations à collecter. Mais nous allons déjà commencer et je pense que c'est pour très bientôt. Donc, d'ici la fin du mois de février déjà, on aura déjà la décision pour constituer les équipes et commencer déjà à collecter les informations.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à notre invité.
Quelle est votre question?
Monsieur Jody, vous savez, le parc des mangroves sont parmi les écosystèmes le plus productif à la biomasse de la planète Terre. En outre, elle constitue la stabilité des efficaces sur certaines zones côtières. Mais ce que nous remarquons, c'est que depuis la création le parc marin de mangroves depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, ce parc-là subit beaucoup de conséquences par rapport au système ou des choses qui sont beaucoup organisées dans ce parc-là. Si vous regardez depuis 2010, il y a eu un processus qui avait donné un peu des proportions peut-être avec les choses qui s'est passées un peu au parc de mangrove. Mais la question que je pose un peu à notre invité, et selon les scientifiques congolais pour la conservation de la nature, ils ne sont pas habilités à ce système-là ou bien ils ne sont pas chargés un peu pour passer un peu au contrôle. Parce que si nous regardons aujourd'hui, on perd un peu des espèces un peu qui sont vraiment rares, comme des tortues, comme des marais, beaucoup d'histoires, même en exploitant même des bois. Moi, je pourrais proposer, quand même, si on exploite quand même les plantes, qu'on puisse un peu, et si on coupe quand même un arbre, qu'on puisse un peu remplacer d'autres pour un peu garder bien notre diversité et notre environnement. Et puis quand on reboise quand même, qu'on respecte un peu l'exploitation par rapport à notre environnement.
D'accord, merci Roger Marcel de Kinshasa. Monsieur Apollinaire Nsoka, je rappelle que vous êtes activiste de l'initiative pour le développement local, IDEL. Voilà, l'auditeur propose, voilà, si on peut couper les palétuviers, il faut directement reboiser. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, au fait, c'est ce qu'on nous a toujours dit, quand tu coupes l'arbre, il faut planter l'autre arbre. Mmh. Mais sur terrain, ce n'est pas le cas. Ça, c'est de un. Je dirais à Monsieur Roger, qui est à Kinshasa, moi, j'adhère à ce que Monsieur Arthur dit, et qu'il faut un plan d'aménagement et de gestion de parc marin de mangrove. Et là, peut-être commencer par sensibiliser les communautés, afin de leur faire voir que quand vous coupez les palétuviers, il faut en remplacer. J'ai vu dans certaines zones où les palétuviers ont été reboisés. Je l'ai vu, mais nous avons constaté un grand retard pour que ça puisse reprendre le niveau. Et comme l'a dit M. Arthur, le palétuvier que nous avons au niveau de l'Atlantique ici, au niveau de la côte atlantique, et c'est unique. C'est difficile à trouver ça dans certains pays d'Afrique. Donc nous avons tout intérêt d'aller dans les alternatives, dans une gestion qui nous permet de trouver d'autres secteurs déclencheurs des revenus pour protéger cet environnement qui est nécessaire, comme l'a dit M. Attir. À l'est, nous avons le parc de Virunga qui est en train d'être dégradé avec la guerre. Nous avons tout intérêt de protéger ce que nous avons à l'ouest. Voilà tout ce que je peux lui dire. Je suis d'accord qu'il fallait trouver des moyens, mais on peut trouver des moyens ailleurs que de tout y est pour n'avoir rien demain. À ce moment-là, nous serons plus durables dans notre réflexion.
Alors, pour réduire la pression sur les palétuviers, certains peuvent proposer, par exemple, la création des forêts artificielles avec l'acacia.
Oui, il y a eu, je crois que l'ami de l'ICCN et aussi ils ont participé dans le projet PUF avec la réhabilité des paysages forestiers. Mais je crois que dans cette zone-là, il y a eu quand même des ratés sur cette affaire-là des acacias. Et je crois que demain, il faut le faire d'une manière responsable afin qu'il n'y ait pas trop de ratés. Parce que après le projet PPGAPEF, nous avons constaté qu'il y a eu une très grande montée des coupes d'arbres dans cette zone. C'est formidable aujourd'hui. Et vous n'avez pas l'idée qu'on peut avoir des remorques de 40 pieds qui quittent la zone avec des macales pour Kinshasa. C'est pour dire qu'il y a un besoin qui se fait sentir quelque part et qu'il faut chercher aussi à répondre à ces besoins-là. Ça, c'est de un. Ben, comme je l'ai dit, il faut des alternatives économiques au niveau local. Et le plan de gestion, le plan d'aménagement et de gestion du parc va nous proposer certainement ces alternatives et comment accompagner. Et pourquoi pas donner de l'électricité au niveau local et au niveau des grandes villes qui consomment sérieusement le macala pour la cuisine, parce que nous devons manger chaque jour aussi.
Bien, Monsieur Arthur a dit tout à l'heure qu'il est en train de travailler sur un document stratégique, un plan d'aménagement et de gestion des mangroves, mais ça peut prendre une année là, pour sortir ces documents stratégiques. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
Bon, en fait, je lui donne confiance, mais j'ai l'expérience sur le terrain. En 2020, l'Initiative pour le développement local avait organisé le premier atelier provinciale du Congo central sur la pêche. Et cet atelier s'est tenu à Mwanda, où toutes les parties prenantes dans la zone fluviale au niveau de l'océan étaient là. Et je crois que l'ICCN, à l'époque, c'était le Belge, je crois bien, qui gérait l'ICCN à Mwanda, qui était là, il est mort, si je ne m'abuse pas. Et tout le monde était là. Et on a essayé un peu de faire sortir les grandes orientations pouvant permettre une gestion concertée de la zone du bief maritime. Mais je dois avouer que nous avons déposé les documents au niveau du gouvernement provincial, au niveau du ministère de tourisme, ministère de développement, mais il n'y a pas eu un feedback. Il n'y a pas eu un feedback et je constate que la politique a tellement pris les devants que parfois nous oublions ce qui est nécessaire. Je lui donne des crédits qu'il fallait faire ce genre de travail, mais déjà avec les réunions qu'on a des communautés de Mwanda avec le pétrolier, moi je crois que l'ICCN devrait aussi faire un effort de participer dans ce genre de réunions pour donner un peu le volet environnemental de l'exploitation de la zone. Mais je constate que quand les pétroliers s'expriment, quand les pétroliers dominent le terrain, apparemment l'ICCN, comme toute la communauté, sont en train de subir. Donc, je suis d'accord avec lui et je me pose la question, comment ça va se faire avec les capitalismes pétroliers qui se sont installés dans la zone et comment le gouvernement national va faire valoir le volet environnemental qui aujourd'hui est totalement négligé et comment ça va se faire. Je me dis, il faut que la société civile soit suffisamment aguerrie pour que nous puissions gagner ce combat des plans d'aménagement, de gestion de parcs et de mangroves dans la zone ou dans la zone côtière de Mwanda. Merci.
Bien, Monsieur Apollinaire Soka Ngimbi, activiste de l'initiative pour le développement local IDEL. Merci. Excellente journée et à la prochaine. Et nous disons aussi merci à Monsieur Arthur Kalongi, directeur du parc marin des mangroves, d'avoir participé à cette émission. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Radio.
Bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Alain Goy a été à la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation, ensemble avec Marc Tchata au micro, jeudi Daniel Kachama, tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Restez sur la fréquence de la paix et bonne suite des programmes. À la prochaine.